Nos géographies, Dominique Rousset.
Bonsoir à tous. Dans nos géographies, ce soir, nous parlons aménagement du territoire. J'ai découvert en préparant ce dossier que dès les années 40 en France, la réflexion était là. Il fallait remédier au poids devenu disproportionné de Paris, la ville capitale. Trouver des solutions pour améliorer l'équipement, l'activité professionnelle, les modes de vie. Bien sûr, les transports, repenser aussi la fiscalité et bien d'autres choses encore. Ouvrage emblématique dans cette période, notamment, peut-être surtout, par son titre maintes fois repris et débattu, Paris et le désert français de Jean-François Gravier, paru en 1947 et il a fait date. L'auteur y développe l'idée d'un nécessaire aménagement du territoire national afin de rétablir ce juste équilibre entre Paris et les provinces françaises. Il semble que l'expression « aménagement du territoire » ait été utilisée à cette occasion, peut-être pour la première fois. Depuis, elle a fait son chemin. Traduisons-la ce soir par ces mots plus poétiques dont l'un de mes invités reconnaîtra sûrement la paternité. Faire France ensemble. Bonsoir Xavier Desjardins, bonsoir Magali Dallandier et bonsoir Hugo Bévoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Xavier Desjardins, professeur en urbanisme aménagement de l'espace Université Paris-Sorbonne. Vous avez beaucoup travaillé sur espace, nature, culture et récemment publié, même republié, Aménagement du territoire en France, qui va largement nous servir. Magali Tallandier est en duplex avec nous à France Bleu Isère, professeur en urbanisme, aménagement du territoire, Université Grenoble, Alpes. Et Hugo Bévoir, ancien directeur des stratégies territoriales au commissariat à l'égalité des territoires, dit CGET. On va revenir sur la fois la création et les missions de cet organisme. Xavier Desjardins, c'est de vous que je parlais, faire France ensemble. Avez-vous reconnu à qui il faut attribuer cette expression? Eugène Claudius Petit, ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme. C'est chez vous que je l'ai trouvé. Dans la communication adressée au Conseil des ministres, je crois que c'était dès 1950. Et c'est en effet les années suivantes qu'on a commencé à créer les premiers dispositifs, c'est bien ça, pour limiter le développement et l'installation d'abord des entreprises en région parisienne.
Oui, tout à fait. C'est dans l'immédiate après-guerre, en fait, que naissent vraiment les politiques d'aménagement du territoire sur le modèle anglais. Parce que les Anglais avaient, une dizaine d'années avant la France, lancé une réflexion sur la localisation des activités industrielles et un dispositif national, justement, de redistribution des activités économiques. Alors, Claudius Petit lance la réflexion en 1950, puis après, ça se met en place au gouvernement de Pierre Mendès France. Et l'idée centrale à l'époque, c'est effectivement la redistribution des activités industrielles en dehors de l'Île-de-France et des grands centres industriels.
Un point important, et vous le dites d'emblée dans l'un de vos ouvrages, l'aménagement du territoire n'est pas en soi une discipline, pas au même titre que la géographie qui nous occupe beaucoup, ou l'économie, ou l'histoire. C'est une pratique et vous tenez beaucoup à ce qu'elle ne s'approprie pas trop pour elle toute seule. La réflexion, elle doit être empruntée à plusieurs disciplines, justement économie, géographie, mais aussi sciences politiques, écologie. Maintenant, il ne faudrait pas que l'on s'arroge du côté de la géographie.
Oui, c'est un risque. Alors souvent, il y a dans les différents pays européens une discipline qui veut être un peu hégémonique sur le sujet de l'aménagement. Et en France, c'est plutôt la géographie. Moi-même, par exemple, j'enseigne dans un département de géographie à la Sorbonne. Et de temps en temps, les géographes qui travaillent sur l'espace, et j'ai aussi une formation de géographe, tentent de dire que l'aménagement du territoire, c'est leur objet. Voilà, là, il y a des collègues qui ont suivi d'autres formations, d'historiens, d'économistes. Donc, ils ne me contrediront pas sur le fait que différentes disciplines ont un regard à porter sur ces questions-là. Et que peut-être l'aménagement pourrait aussi se renouveler si des disciplines variées, on parlera de la Covid, peut-être des médecins, etc., d'autres viennent donner leur point de vue. C'est cette richesse, c'est une pratique politique qui s'enrichit de regards scientifiques très variés.
Ce mot d'aménagement du territoire, vous confirmez que c'était bien la première fois qu'on l'utilisait là, dans l'ouvrage très connu que j'ai cité, Paris, le désert français?
Oui, c'est à cette époque-là.
C'est à peu près à cette époque-là que c'est apparu. Ce terme de territoire qui est maintenant tellement utilisé, ne vous paraît pas un peu trop fréquemment utilisé précisément? Est-ce qu'il y a d'autres manières de parler de notre espace français? Magali Tallandier ou Hugo Bévoir?
Oui, alors le mot, pour rester dans le domaine un peu des concepts et des mots derrière ces termes qui sont utilisés par tous, mais qui finalement sont des termes plus compliqués qu'il n'y paraît. Dans un des fameux dictionnaires de géographie, je crois que le territoire se décline en 9 définitions différentes. Donc vous voyez que ce mot a priori simple ne l'est pas. Donc du simple découpage administratif qu'on va appeler un territoire, une commune, un département, à la notion vraiment de territoire vécu, approprié, une construction culturelle, historique, vous voyez qu'on a une palette de définitions tout à fait large. Moi, pour ma part, c'est vrai que j'aime bien utiliser ce terme pour décrire justement des lieux complexes, des lieux riches par leur histoire, leur culture, leur géographie, et non pas seulement un espace défini de façon administrative avec des frontières institutionnelles, mais plutôt quelque chose qui se construit et qui évolue justement avec le temps, les enjeux, et d'où aussi la difficulté, mais la chose passionnante qui est de plaquer une pratique professionnelle, une politique, qui est celle de l'aménagement du territoire sur ces espaces finalement très fluctuants.
Hugo Bévoir, l'égalité des territoires, hein, c'était au cœur du travail que vous avez effectué, donc au sein du commissariat. Ce terme, là encore, était au pluriel d'ailleurs, pour ce qui vous concerne.
De mon côté, moi, je ressens un peu une forme d'épuisement quand même du mot de territoire. Il y a
très très utilisé.
Il est très très utilisé.
Alors, combien de fois dans le discours du Premier ministre, on l'a dit, plus d'une quinzaine, son premier discours.
De mémoire, c'était une quinzaine. Générale. C'est l'exemple que j'allais citer. C'est-à-dire qu'il y a un usage politique du mot territoire qui a pris complètement le dessus par rapport aux définitions scientifiques et à l'usage que l'on peut en avoir dans la pratique, puisque c'est pas une discipline, de l'aménagement du territoire. Et ce mot fait quasiment écran, parce qu'il est devenu synonyme, en particulier dans les propos du Premier ministre, un synonyme de proximité avec le terrain. C'est le territoire employé quasiment comme mauvaise conscience territoriale. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que la France d'en haut est composée de territoires au pluriel. Et cet usage-là fait en quelque sorte, de mon point de vue, écran avec la réflexion sur les conditions dans lesquelles on construit les grandes dynamiques du territoire national.
Oui, on peut entendre ça, hein. Je vous vois hocher la tête, Xavier Desjardins. Revenons un peu sur l'histoire, l'évolution de la notion, justement. Elle est très ancienne, hein, cette volonté de contrôler l'espace aussi.
Oui, la volonté de contrôle, évidemment, ancienne. Depuis qu'il y a des pouvoirs politiques, on veut contrôler. L'aménagement en tant que politique volontaire de transformation du cadre spatial de vie, c'est plutôt peut-être le 18e, on pourrait dire, à partir du moment où les pouvoirs ont de la cartographie, des études de territoire, etc. Et l'idée aussi, c'est le 18e, qu'avec les infrastructures, c'est le développement des routes, etc., on peut transformer l'économie, mais aussi, on pourrait dire, la vie morale d'un pays. Ça, c'est à partir du 18e siècle qu'on a ça, donc c'est vraiment du temps long, quand même, dans lequel s'inscrit. Ce qui fait que l'aménagement du territoire français, et ça je le dois à Marie-Vicozouf Marinier, qui le rappelle dans un ouvrage récent, c'est depuis le 18e qu'on a certains concepts très stables dans l'aménagement du territoire en France, qui sont héritiers de cette époque sur l'égalité des territoires, des conditions d'accès aux services, etc. Donc c'est une histoire longue avec des permanences assez étonnantes de certaines notions ou volontés politiques.
Rien à ajouter à ce sujet. L'Empire romain, c'était déjà de l'aménagement du territoire.
On équipait, on créait des infrastructures, etc. Mais je...
On mettait des routes, beaucoup.
Oui, bien sûr, des routes, bien sûr. Ça, les routes romaines, c'est fameux, etc. Et avec, évidemment, aussi une idée que ça a créé de l'unité politique, évidemment, au sein de l'Empire romain. Mais on n'avait pas cette vision globale économie, équipement, vie territoriale, etc. J'aurais plutôt tendance à le faire démarrer au 18e. Mais comme toute notion, ça dépend de ce qu'on met dedans, évidemment, pour la faire débuter.
Oui, Hugo Bévor.
Non, mais j'ai le sentiment que s'il fallait trouver un précédent avant le 18e, où on a précisément cette association infrastructure, construction territoriale, unité nationale et valeur morale, il faudrait plutôt aller chercher du côté des Pays-Bas, où précisément parce que le territoire est totalement construit, enfin construit délibéré, construit sur la mer, et où simultanément il se construit par opposition aux autres territoires, on a en même temps un travail moral, un travail philosophique, un travail cartographique, parce que les grands cartographes néerlandais mêlent précisément ce travail de construction morale, de représentation du territoire, avec l'idée qu'il faut le construire en le transformant par des infrastructures.
et le défendre aussi.
Et le défendre.
C'est dans le cas des Pays-Bas, c'est évident. Alors, restons encore un tout petit peu sur un point historique. Après 14-18, on a le sentiment qu'à la fois en Europe et ailleurs aux États-Unis, un peu plus tard avec le New Deal aussi, et même en URSS au fond, on a commencé vraiment à s'inscrire dans cette dynamique-là. Et je passe un peu rapidement les étapes, parce qu'on a beaucoup à se dire. L'âge d'or, je crois que Xavier Desjardins se situe plutôt, alors après 45, vous l'avez dit, et jusque dans les années 75, avant de vous entendre, voyons l'anticipation de quelqu'un qui s'est fait bien remarquer sur ces aspects-là, je crois que ça date de 1931.
Notre objectif ressemble peu à celui qu'Haussmann, ses prédécesseurs et ses successeurs poursuivaient. Notre tâche est aussi différente de la leur que les moyens dont nous devons nous servir le sont de ceux qu'ils ont employés. On entend souvent dire « il nous faudra un nouvel Haussmann ». C'est une vue bien simpliste des choses. Haussmann échouerait aujourd'hui comme Napoléon aurait échoué dans la guerre des tranchées. L'histoire ne se recommence pas sur un plan identique. La dictature d'un fonctionnaire, appuyée sur un gouvernement incontrôlé, obtenant gain de cause contre les ministres et les conseils d'État et mettant les lois dans sa poche, cela correspond à des temps révolus. Le problème pour nous n'est pas, comme on le prétend parfois, un problème d'autorité, c'est un problème de méthode. Les démocraties pratiquent le travail en équipe. Nous avons à organiser nos équipes, à les dresser dans certaines disciplines, à coordonner leurs gestes. Telles sont en République les règles de l'harmonie nécessaire. Telle doit être pour l'aménagement régional la règle à instituer et à suivre.
Vous aurez peut-être reconnu dans la voix d'Anne-Laure Chanel André Morizet, politique très influent. Je ne sais pas si vous connaissiez ce texte.
Le texte, je crois, date de 1932. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans le texte. C'est que d'une part, il y a un rappel qui rompt quand même beaucoup avec la rhétorique qui sera celle de Jean-François Gravier que vous citiez tout à l'heure, hein, qui est grosso modo la démocratie se pratique en équipe, l'aménagement du territoire ne passe pas par la vision du chef, du prince, l'équivalent d'un Haussmann, elle passe par un travail d'équipe et une démocratie moderne, donc ça c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément qui est intéressant, c'est que Morizet, quand il parle là, parle du Grand Paris en vérité. C'est-à-dire c'est un des discours les plus connus que Morizet prononce, donc c'est l'arrière-grand-père de Nathalie Kosciusko-Morizet, à l'époque maire d'une commune de banlieue, et il explique la nécessité de dépasser les frontières et de construire des structures à la hauteur des défis du temps.
Ouais, je parlais d'anticipation, là, vraiment.
Et si vous l'avez dit tout à l'heure, à propos de Gravier, c'est-à-dire que la figure de Paris dans l'aménagement du territoire, c'est à la fois le repoussoir et l'oublier. Le repoussoir, parce que l'aménagement du territoire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, se construit contre Paris, contre l'omnipotence parisienne, contre le poids excessif de Paris, et l'oublier parce que, encore jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a d'un côté la politique d'aménagement du territoire, qu'on appelle aménagement, égalité, cohésion, et de l'autre, il y a Paris. Et pour le coup, si on revient à des savoirs disciplinaires, le fait caractéristique de l'organisation territoriale de la France, c'est quand même le poids de Paris. Et les politiques d'aménagement du territoire ont laissé de côté ce sujet, si ce n'est pour affaiblir Paris, considéré comme trop puissant.
Vous voulez dire que les transformations du Grand Paris, hein, dont on s'occupe aujourd'hui, interrogent l'organisation de l'ensemble du territoire, en fait, du pays.
Évidemment.
Oui, Xavier Desjardins, un mot là-dessus.
La question de Paris a toujours été centrale dans l'aménagement du territoire français. Et dans les années 50, 60, 70, c'était peut-être moins affaiblir Paris que le spécialiser. C'était l'idée qu'en fait, Paris était une grande ville industrielle et que l'industrie pouvait plus facilement peut-être se déployer ailleurs qu'à Paris, et d'ailleurs de manière moins coûteuse. Et c'est pour ça qu'en fait ce déshabillage industriel de Paris a été soutenu à l'époque beaucoup par le patronat, en fait, qui y voyait un moyen d'organiser le territoire d'une façon efficace pour la production industrielle. Et prenons l'exemple de Renault, qui s'est relocalisé le long de la vallée de la Seine, Rouen, Le Havre, etc., avec Cléon et Sandouville, qui est un peu le symbole de cette réorganisation industrielle de la France d'après-guerre, où il y avait moins d'emplois dans Paris, avec cette idée, moins d'emplois industriels dans Paris, mais Paris gardant ses fonctions intellectuelles, financières, médiatiques, etc., qu'il a toujours conservé. Mais c'est sûr que la question parisienne est complètement centrale dans toutes ces questions d'aménagement. Et le reste, pour prendre l'actualité récente, le grand projet parisien du moment, le plus coûteux en tout cas, c'est les 50 milliards d'euros environ du métro de rocade là, qui est en cours de réalisation. Il a été lancé il y a une dizaine d'années avec un argument, non pas parisien, mais national, avec l'idée qu'il fallait renforcer la compétitivité de la France, c'était renforcer la compétitivité de Paris. Donc Paris a toujours eu une place exorbitante, à la fois on essayait de le punir, et parfois on en attend peut-être trop, je dirais, quand on pense que ça peut être une locomotive économique pour le pays.
Magali Talandier, encore un mot là-dessus ?
Si vous voulez, ce que j'observe moi dans mes travaux, c'est les dynamiques économiques qui accompagnent ou précèdent ces décisions et ces pratiques politiques d'aménagement du territoire. Et c'est clair que là, sur les périodes dont on vient de parler, des années 50-60, on est quand même dans des périodes où les inégalités territoriales sont extrêmement fortes. On a une France, une partie de la France qui s'est industrialisée et qui connaît donc un essor économique, démographique. Et puis toute une partie de la France plus au sud, plus à l'ouest, celle qui aujourd'hui est peut-être celle qui a porté justement d'autres dynamiques depuis 30 ans, mais qui là dans les années 50-60 est très en retard finalement. Donc on essaie évidemment de rééquilibrer aussi d'un point de vue économique et social ces choses-là. Donc il y a toujours un parallèle entre ce qui a été dit aussi tout à l'heure d'un point de vue plus historique, mais un parallèle entre la réalité économique, les enjeux économique du moment et les pratiques d'aménagement du territoire, jusqu'à en effet cet enjeu de compétitivité, de soutien des métropoles que l'on vient de vivre depuis 30 ans, et puis avec des nouvelles choses qui émergent aujourd'hui sur des questions peut-être plus écologiques. Donc il y a ce parallèle-là que moi j'essaie justement de rendre plus visible et lisible pour les acteurs.
Alors il y a bien sûr une date, enfin une période en tout cas très particulière dans l'histoire de France, vous nous direz peut-être Xavier Desjardins si on peut le comparer à d'autres, celle de la présidence du général de Gaulle quand même, quand on pense aménagement du territoire, cette espèce de conjonction comme ça d'une croissance très forte, d'un pouvoir central, on vient de le dire, évidemment à Paris, qui favorise une politique très très active. Et c'est aussi une période faste de lancer des villes nouvelles, de lancer un peu partout, je sais pas, des zones industrielles, portuaires, de soutenir les métropoles de province. Ça, c'est par un décret de général de Gaulle.
Oui, c'est sûr. Cette période, elle est encore très très connue aujourd'hui. Elle marque notre vie quotidienne encore, parce qu'on y crée les villes nouvelles, donc 5 en Île-de-France, mais aussi autour de Lille, Lyon, Marseille. On lance 2 grands ports, zones industrielles ou portuaires, Dunkerque, Fos. C'est aussi l'époque de création des parcs naturels régionaux. Donc, qui sont aussi une politique d'aménagement du territoire qui s'est, voilà, cette fois-ci plus dans le monde rural, bien évidemment. C'est aussi la politique de lancement des métropoles d'équilibre. Et ça fait un écho à des débats contemporains. C'était l'idée qu'on a déjà évoquée, que Paris étant une ville avec un poids démographique très important dans le pays, il fallait renforcer les villes secondaires, donc on les appelait métropoles d'équilibre. Et donc effectivement, on a en quelques années comme ça un lancement de tout un ensemble de politiques qui ont très durablement marqué le territoire. Et dans le discours de Morizet que vous citiez tout à l'heure, il faisait allusion à Haussmann, qui était un peu moins d'un siècle auparavant. Et aujourd'hui, quand on parle d'aménagement du territoire, et vos questions l'illustrent, on a toujours en fait cette période en sorte de référence, ce qui est à la fois intéressant et facilitant, mais aussi quelquefois bloquant, parce que bien évidemment, comme disait Morizet par rapport à Haussmann, d'une époque à l'autre, c'est évidemment absolument pas réplicable. L'économie est autre, l'organisation des pouvoirs, la société, les enjeux écologiques, etc., font qu'évidemment, on est obligé de penser aujourd'hui tout à fait autrement ces questions-là.
14 février 63, donc un décret du général de Gaulle qui instaurait cette tâche. Alors de manière assez amusante, d'ailleurs un petit élément intéressant, si on fait attention tout en bas du texte, une tâche intermédiaire, dit-il, qui requiert de façon constante la possibilité de recourir à l'arbitrage et à l'autorité du Premier ministre, en l'occurrence Georges Pompidou. Écoutons le premier délégué à l'aménagement du territoire.
À l'ordre du jour de l'aménagement du territoire, les métropoles régionales. Monsieur Olivier Guichard, tout d'abord, quelle est la définition de ce mot métropole régionale ?
Eh bien, tout d'abord, je vous dirais que je n'aime pas le mot métropole régionale, car l'expression de métropole d'équilibre me paraît convenir mieux à la politique que nous entendons mener. Le jour où nous aurons en France plusieurs grandes villes qui seront à la fois des centres de décision, des centres de conception et d'information et aussi des centres de services rares, je suis persuadé que c'est toute la région qui en profitera. Voyez-vous, dans une enquête récente d'opinion publique, nous nous sommes aperçus que c'était surtout dans les villes de plus de 100 000 habitants que l'influence de Paris diminuait. Ceci est un élément encourageant pour les métropoles. Et de même, il faut bien le dire, Paris a considérablement profité au bassin parisien. Les grandes villes qui l'entourent ont profité du rayonnement de Paris. Je ne vois aucune raison pour que ce ne soit pas de la même manière des grandes métropoles d'équilibre qui, demain, en France, profitent à toutes les régions françaises.
Olivier Guichard, délégué à l'aménagement du territoire. Arrivons aux années 80, déjà l'État quand même commence évidemment décentralisation, transfert des compétences. C'est pas un mouvement uniforme d'ailleurs à l'échelle européenne, je crois, vous avez relevé Xavier Desjardins. Et puis, en septembre 2012, là nous sommes toujours en France, Cécile Duflot, donc, qui annonce la création d'un commissariat général égalité des territoires absorbant la fameuse délégation à l'aménagement du territoire qui avait non pas vécu, hein, elle a résisté à peu près, mais enfin perdu un peu quand même de ses prérogatives. Un mot là-dessus, les uns et les autres, fallait-il supprimer ou étouffer un peu, entre guillemets, la DATAR, Xavier Desjardins?
Ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, depuis la décentralisation, la place de l'État dans l'aménagement du territoire était en questionnement. Parce qu'effectivement, la décentralisation, c'est aussi le transfert d'un nombre de compétences d'aménagement, de l'urbanisme, de transport, etc., aux collectivités locales. Donc la place de l'État était fortement en recomposition. Et il a eu tendance, l'État, à réduire son champ d'intervention politique territoriale aux espaces en difficulté. Donc il y avait un effort de redéfinition à avoir. Et depuis une dizaine d'années, je dirais qu'on est sur quelque chose d'assez paradoxal. C'est-à-dire qu'on a une demande permanente de retour à de l'aménagement. Hugo Bévor citait le discours de Jean Castex, il dit territoire, aménagement, etc. C'est, si vous allez dans un congrès d'élus local et que vous dites que vous faites de l'aménagement du territoire, vous êtes applaudi, bien sûr. Donc on a une forme de réclamation permanente d'une capacité de l'État à reprendre le flambeau. Mais d'un autre côté, on a une hésitation sur les modalités et sur les termes. Les termes ont beaucoup évolué tout le temps, ce qui est le signe d'une hésitation. On pourrait dire on a eu égalité des territoires, aujourd'hui plutôt cohésion des territoires, on a eu attractivité. On voit bien qu'il y a une forme de grande indécision au niveau de l'État sur l'orientation qui est à donner à cette politique.
Et surtout une place différente qui va être donnée aux villes. Hein. Depuis 30 ans, grande concentration des activités, des richesses dans toutes les villes. Là, je peux parler de toutes les villes du monde. Hein. On n'a pas le temps de trop le détailler, mais ça me paraît évident. Or, c'est un modèle qui est fortement remis en cause. On va parler bien sûr de la crise de la Covid-19, mais même avant, ce 21e siècle qui se propose à la fois un tournant écologique, sanitaire donc probablement. Magali Dallandier là-dessus, ce modèle métropolitain donc est amené peut-être pas à disparaître, mais qui va bien devoir s'adapter.
Oui, c'est-à-dire que ce modèle métropolitain, ce constat que au niveau en effet global, on a assisté depuis 30 ans à peu près, hein, une métropolisation, à savoir une concentration des richesses, des hommes, des activités économiques, mais aussi du pouvoir dans les grandes villes du monde, correspond à une dynamique économique en réalité derrière, c'est-à-dire qu'au tournant des années 80-90, on a un modèle économique qui petit à petit s'est modifié, avec en tout cas dans les pays anciennement, ce qu'on appelait les pays industriels, les pays de l'OCDE, une montée d'une économie cognitive, d'une économie de la connaissance qui détermine des indicateurs de croissance. Donc, en effet, l'enjeu est de concentrer ce type d'activité, de services haut de gamme. Et la fabrication, on le sait, pour partie, a été délocalisée, pour partie aussi en dehors de nos frontières. Donc cette nouvelle économie, c'est ce qu'on appelait à l'époque, cette nouvelle économie, associé à des technologies de l'information, enfin un changement quand même assez fort. Maintenant, on vit dedans, donc on s'en souvient peut-être peu, mais on a changé quand même d'air, et spatialement, ça s'est traduit en effet pour des raisons économiques, hein, de marché. Donc c'est pas une volonté des pouvoirs publics de soutenir la métropolisation, mais c'est d'abord une logique de marché qui fait que ces grandes agglomérations du monde sont devenues en effet des lieux privilégiés pour ce type d'activité. Là, c'est le modèle dans lequel nous vivons. Pour autant, quand on travaille sur les territoires, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les entreprises industrielles n'ont pas disparu. Nos activités agricoles et nos registres du monde agraire sont restés présents. Donc, c'est comme si on avait, si vous voulez, une sédimentation dans l'espace de ces modèles économiques, culturels qui se sont succédés les uns aux autres. Et donc, on a des métropoles, mais on a aussi tous nos territoires industriels et on a bien sûr nos espaces agricoles et on doit aménager et créer de la cohésion entre tout cela. Et aujourd'hui, il me semble que on est à un tournant avec d'autres registres de représentation, d'autres demandes aussi émanant des citoyens sur les questions environnementales qui viennent peut-être aussi changer ce modèle métropolitain.
Hugo Bévor, un nouveau visage de l'industrie plus rurale, les emplois qui dépendent d'usines plus traditionnelles se sont déplacés. Et ça rejoint tout à fait ce qu'on vient d'entendre. Oui,
c'est ce que résumait Magali Talandier, c'est on a eu un grand mouvement de recomposition du tissu manufacturier en France, qui a accompagné l'émergence de ces grandes villes. Et une des singularités françaises dans cette histoire, c'est que, en fait, depuis toujours, comparé à l'Angleterre, à l'Allemagne ou même aux pays nordiques, le tissu industriel français était assez peu urbain. Il y avait des grands pôles urbains qui étaient des pôles industriels, on peut penser évidemment à la région parisienne, mais globalement, le choix qui a été fait en France, c'est de développer les industries plutôt à distance des grandes villes. C'est un choix politique. Ce qui se passe à partir de 1975 et qui se poursuit quasiment jusqu'à aujourd'hui, c'est que la carte des industries s'est profondément recomposée. On avait, pour faire vite, une France divisée en deux avec une France industrielle qui était située globalement au nord-est de la France, au nord-est d'une ligne Le Havre-Marseille. Et on assiste aujourd'hui, en même temps que l'on voit la suppression d'emplois industriels dans ce nord-est de la France, on assiste à une diffusion des industries sur l'ensemble du territoire et toujours à distance de ville. Schématiquement aujourd'hui, il y a un emploi sur sept qui est un emploi industriel. Un emploi sur sept à un emploi industriel, c'est aussi vrai dans le département du Nord ou dans le département du Pas-de-Calais. Il y a moins de différence aujourd'hui entre l'emploi industriel dans le sud-ouest de la France, qui était traditionnellement un territoire où il y avait peu d'emplois industriels, entre ces territoires du sud-ouest et les territoires du Nord-Est. Donc on a une diffusion et on a une dissémination de l'industrie à distance des villes.
Mais de petites villes comme
Figeac, on parle de villes de 10 à 50 000 habitants qui ont quelques pôles industriels aujourd'hui importants. Et là où les emplois industriels se créent, c'est à distance des pôles industriels traditionnels. Voilà. Juste peut-être un mot, si vous me permettez, sur cette histoire de la ville, parce que vous avez cité tout à l'heure la fin de la DATAR en 2012 et la création du commissaire général à l'égalité des territoires, c'est une décision de la ministre Cécile Duflot. Ce qui est frappant à l'époque, c'est que le projet de cette création, c'est précisément de prendre en charge la question urbaine. C'est-à-dire, c'est de fusionner la discipline politique de l'aménagement du territoire avec la discipline politique, avec le portefeuille ministériel de la politique de la ville. Le CGET naît de l'idée que, grosso modo, les problématiques d'accès sont les mêmes quand on habite dans un quartier d'une grande ville, un quartier défavorisé d'une grande ville, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou dans un territoire plus à distance d'une grande ville. Donc vraiment le projet de la création du CGET, il naît précisément de la volonté de dire en définitive c'est le même sujet. Et c'est ce projet-là, il m'appartient pas de dire si c'est vrai ou si c'est faux, en tout cas c'est un projet politique. C'est un projet politique de mettre sur le même plan la douleur de l'éloignement du rural avec les difficultés de la vie quotidienne dans les quartiers.
CGET, égalité des territoires, je le rappelle, commissariat général. Magali Talandier.
Oui, sur ce point, parce que c'était très intéressant, je me souviens aussi de cette époque où on a fusionné ces deux types de politiques, en se disant en effet, comme on vient de le rappeler, que c'était une même problématique. Moi, je me souviens également de discuter en interne avec les personnes qui étaient à l'époque dans cette institution, et qui disaient les difficultés qu'ils avaient quand même à travailler ensemble, parce que si la problématique est la même, les outils ne sont pas du tout les mêmes, les politiques ne sont pas les mêmes, et puis ce qui augmente les inégalités, ou au contraire ce qui résorbe les inégalités à l'échelle des territoires, si vous voulez, entre le rural et la ville, entre ce qu'on a dit, ces petites villes industrielles et d'autres métropoles, donc c'est ce qui va favoriser ou au contraire diminuer les inégalités à cette échelle-là, n'a rien à voir avec ce qui les fragmente ou pas au sein de la ville. Là, on a vécu, au cours des dernières décennies, plutôt une circulation des richesses, c'est-à-dire une réduction de certaines inégalités entre les régions, entre les départements, voire même entre les communes au niveau national, grâce à la mobilité notamment des individus, par mes pratiques de mobilité, par les migrations résidentielles, mais aussi par le tourisme, par ces mobilités récréatives, on a participé à une diffusion de la richesse. Donc la mobilité à cette échelle-là a plutôt réduit les inégalités, alors même qu'au sein des villes, on sait à quel point la mobilité résidentielle, les stratégies résidentielles, le choix de notre adresse fragmente les espaces et augmente les inégalités. Donc c'est juste une illustration pour dire que ce mariage qui était sans doute bienvenu, enfin je trouve que l'idée de départ était sans doute bonne, était assez difficile à mettre en œuvre, je pense, pour ceux qui étaient à la manœuvre à ce moment-là.
Xavier Desjardins.
Juste un petit point sur l'égalité des territoires. C'était aussi une réponse à l'extrême droite qui mettait en concurrence l'aide pour les pauvres des villes et les pauvres des champs. Donc c'était très politique, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler cette pression que d'ailleurs l'extrême droite continue à attiser en disant qu'il y a des pauvres qui demandent plus à être aidés que d'autres. Donc il y avait aussi cette réponse très, très politique et circonstancielle dans la création d'une administration d'égalité des territoires.
Hugo Bévoir a mentionné le cas français en disant qu'il n'était peut-être pas forcément le même partout en Europe, comme vous avez fait pas mal de comparaisons. Évidemment, si on parle de désindustrialisation douloureuse, comme on sait, on pense au Royaume-Uni. Est-ce que c'est une comparaison que l'on peut faire avec ce qui s'est passé en France ? La situation par rapport aux villes ou...
Alors, le débat est un peu différent en Grande-Bretagne, pour la raison qu'évoquait Hugo Bévoir, c'est que l'industrie des Britanniques était, elle, dans les grandes villes. C'est les grandes villes du Nord, Manchester, Birmingham, etc., qui étaient des grandes villes industrielles. Donc, la désindustrialisation en Angleterre a touché, je dirais, ces grandes villes, alors que nous, elle a touché évidemment un certain nombre de grandes villes, Marseille, Lille, etc. Bien sûr, on le sait, et Paris, enfin voilà, beaucoup de grandes villes étaient industrielles, mais en proportion, ça a touché plus un tissu de villes petites et moyennes, ce qui pose un petit peu différemment la question de la place des métropoles. Et pour revenir à cette question de la place des métropoles, aujourd'hui, c'est sûr que le débat... C'est peut-être plus Paris et le reste, mais les métropoles et le reste. C'est comme ça que médiatiquement, c'est le plus annoncé. Et on pourrait dire d'une certaine manière, est-ce que Guichard a gagné? Parce qu'il disait, voilà, demain les métropoles. On peut dire oui et non, parce que oui, c'est les métropoles qui sont envoyées au reste. Mais non, parce que dans son propos tout à l'heure, il disait, les métropoles vont avoir un effet d'entraînement du développement régional. Et aujourd'hui, c'est ça qui est questionné. C'est
le fameux ruissellement.
Alors, là-dessus... quand même, deux petits points, parce que ça me semble vraiment important de rappeler qu'effectivement, la métropolisation, c'est partout dans le monde. Mais quand même, quand on regarde les chiffres en Europe, c'est de manière extrêmement atténuée en termes de concentration des populations, etc. Puisque sur les 50 dernières années, les grandes villes françaises ont eu la même croissance démographique que les autres parties du territoire. On est quand même sur un mouvement, effectivement, de concentration des richesses, des activités, d'un certain nombre d'activités productives. Mais en fait, et c'est pour des raisons de longue durée, d'organisation de notre système social, etc., ce mouvement de métropolisation touche le monde entier, mais ça touche l'Europe depuis quelques décennies d'une manière nettement atténuée par rapport à tous les autres continents.
Alors venons-en à ce que nous vivons aujourd'hui et depuis finalement assez peu de temps, et certainement attisé par les différentes crises que nous avons connues. Je ne sais pas si la crise de 2008 peut entrer dans ce que nous allons examiner à présent, mais celle que la crise sanitaire certainement. Ce déplacement, vous avez fait allusion, Magali Talandier, tout à l'heure, ce déplacement vers une autre forme de résidence, hein, d'habitation, pas forcément liée à l'industrie voisine. Hugo Bévoir est à peu près sur la même ligne. J'aimerais, Magali Talandier, que vous nous parliez d'un travail que je trouve tout à fait intéressant, que vous avez fait sur les densités de population. Quelles seraient les conséquences d'une dédensification massive des villes? Et on va revenir sur la question de la Covid-19, où on sait beaucoup de résidents des villes sont partis vers les provinces. On va voir ce que ça veut dire et ce que ça dira dans l'avenir. Cette géographie idéalisée, en réalité, elle a déjà existé. Et vous avez fait des cartographies tout à fait passionnantes sur le sujet. On en dit un mot ?
Oui, c'est une tribune que j'avais proposée au Monde et qui est plus développée dans un article sur The Conversation, où en plein Covid, c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'articles publié, et ça continue, hein. Tous les jours, on a des titres sur la revanche des campagnes, l'exode urbain, ces citadins qui seraient donc amenés à quitter de façon massive les villes pour s'installer dans les campagnes. Et comme j'ai beaucoup travaillé sur les questions rurales et observé ces dynamiques de population, ce qui m'a d'abord le plus frappé dans ce qui était dit, c'est le fait de présenter cela comme quelque chose de nouveau, alors que ça fait vraiment maintenant 50 ans qu'il n'y a plus d'exode rural, en tout cas en France. Donc ça veut dire que les soldes migratoires sont positifs dans les espaces ruraux, certes par la périurbanisation, mais pas seulement. Et puis une trentaine d'années que le rural, y compris le rural éloigné des villes, se repeuple. Donc déjà, cette dynamique rurale est à l'œuvre. Par contre, c'est pas le rural, c'est certaines campagnes. Et quand on a parlé de métropolisation, on a à la fois eu notamment dans des pays comme la France, où on a un espace rural qui est relativement accessible et puis qui est très résidentiel et touristique pour certaines parties de la France, on a à la fois eu un effet métropolitain, mais aussi une attractivité très forte de certaines campagnes et pas de toutes, justement. Donc des campagnes plutôt résidentielles, plutôt touristiques, situées dans le sud ou à l'ouest ou à proximité parfois de la métropole parisienne aussi. Donc ce mouvement déjà de retour vers les campagnes, même s'il est progressif, il est lent, il est déjà à l'œuvre. Donc un, c'est pas nouveau. Et deux, ce qui m'a alors encore plus étonnée, c'est le fait que tous ces articles présentent ce possible exode urbain massif, disons cette accélération des migrations, comme quelque chose de positif, parce que ça rééquilibrait, en rééquilibrant la population, si vous voulez, on rééquilibrait tout, en quelque sorte, le social, l'économie, les richesses. Et ça, je trouve que ça mérite quand même débat, parce que, en effet, je me suis amusée de façon très prospective à projeter la population d'aujourd'hui au format, à la géographie de ce qu'elle était au 19e siècle, puisque au 19e siècle, on avait une population relativement équilibrée, en termes en tout cas de répartition entre le rural et la ville. Donc on avait comme ça une forme d'équidensité de population, et donc je me suis dit, tiens, si on retrouvait cette géographie un petit peu fantasmée, à quoi on aboutirait aujourd'hui?
Je renvoie aux cartes, là vous avez cité les articles, nous évidemment on va les mettre en ligne, les cartes sont très parlantes, hein. Vous avez choisi l'année 1876 pour être très précis, et 2017 aussi, hein, je crois. 1876, donc effectivement, on le voit très bien sur la carte, une répartition de densité très homogène dans l'espace, et à l'époque 38 millions d'habitants en France, je crois, plus de la moitié habitait en zone rurale. 2017, donc au moment où vous commencez cette projection, la France recense, on le savait, 64 millions d'habitants. Moins d'un quart est en zone rurale. À partir de là, que se passe-t-il sur votre projection de dédensification des espaces urbains?
Donc déjà, ma projection de dédensification, comme vous le dites, elle s'applique sur une population qui a doublé. Donc ça, on oublie aussi un petit peu que quand même, voilà, la population.
C'est pas la même chose.
Aussi parce que l'espérance de vie a doublé. Hein. C'était 40 ans, c'est passé à 80 ans. C'est un des facteurs évidemment essentiels. Donc la population a doublé. On est deux fois plus nombreux et on est plus nombreux à habiter, à s'être concentrés dans les villes. Si l'on revenait à cette géographie du 19e siècle, ça produirait en effet une sorte d'invasion urbaine des campagnes. Alors je m'amuse voilà à projeter la construction, je sais plus, de 40 immeubles de 8 étages dans une petite ville du Cantal. Bon, pour rendre compte d'une réalité qui apparaît à une première lecture un peu trop rapide, forcément positive, et qui en réalité pose tout un tas de questions. Alors pour les campagnes, en termes de pression environnementale et qu'est-ce qui se passerait si on densifiait des espaces fragiles finalement, et puis pour les villes aussi quelque part en termes de solidarité.
On va revenir à ceux qui partent et ce qui peut se passer maintenant, juste pour revenir encore à votre projection. Paris devrait accroître sa population de 54%. Imaginez, donc elle atteindrait plus de 3 millions, presque 3 millions et demi d'habitants. Bordeaux aussi, mais d'autres villes devraient se dépeupler largement. Hugo Bévor, vous voyez, entendre tout ça, vous voulez le commenter?
L'intérêt des travaux, de ces travaux, c'est de rappeler que les Français sont en vérité assez mobiles. Ils sont mobiles tout au long de leur vie, et que contrairement à un lieu commun qui existerait sur les Français qui sont incapables de déménager, de s'ajuster, tout ça, en fait, on est dans la moyenne haute des pays européens. Il y a plus de 7 millions de Français qui déménagent chaque année. Et quand il y a 7 millions de Français qui déménagent chaque année, il y en a plus d'un million qui changent de région, c'est-à-dire que ce ne sont pas simplement du déménagement de proximité. Donc on est sur un territoire qui ne cesse de se recomposer grâce à ces déménagements qui permettent aux individus de changer de lieu et de remodeler progressivement la géographie française. Ce que disait Magali Talandier aussi, le deuxième point, c'est que ces mobilités, ce qu'on appelle les soldes migratoires, les différences entre les entrées et les sorties, aboutissent à des territoires qui gagnent et des territoires qui perdent. Voilà. Et schématiquement, si on n'est plus dans un monde qui oppose l'urbain au rural, on est dans un monde où on a une France qui, au jeu du solde migratoire, perd des habitants, c'est le quart nord-est de la France, et on a tout le reste de la France, que l'on soit urbain ou rural, qui en revanche est plutôt caractérisé par des gains. Et à l'intérieur, on a un espace qui fait le pivot, c'est l'Île-de-France. Et l'Île-de-France qui est devenue un territoire complètement singulier. Et moi juste, il y a un point... La comparaison 1876 aujourd'hui est passionnante. Elle a juste un point, c'est qu'on oublie qu'aujourd'hui, les gens ne vivent plus là où ils sont nés. C'est-à-dire qu'il y a un Français sur deux qui n'habite pas dans le département où il est né à Paris, les trois quarts de la population de l'Île-de-France, je parle même pas de la ville de Paris,
ne sont pas parisiens.
Ne sont pas nés dans le département où il réside. Et c'est une situation qui est complètement singulière. On a quelques régions où on a une relative stabilité de la population, c'est en particulier vrai du Nord-Est, et puis on a d'autres régions où les gens emmènent leur culture, leur formation, leur savoir, et ainsi de suite.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse: qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate.
Dans nos géographies ce soir, on parle d'aménagement du territoire pour le plaisir. Adriano Celentano Sola, Ragazzo della Via Gluck, soit de Hugo Bévor. On a reconnu la musique, bien sûr. C'est une chanson extrêmement célèbre en Italie, car elle parle de nostalgie de la campagne, tout de même, Hugo Bévor.
Ouais, c'est une chanson de la fin des années 60. L'Italie, c'est quand même le pays qui a connu la plus fantastique métamorphose de sa géographie en l'espace de 50 ans. C'est très amusant. En Italie, il n'y a même pas de ministère de l'aménagement du territoire. En revanche, il y a un ministère de la cohésion et du Sud. Ce qui est une manière de dire de manière totalement transparente l'ambition que l'aménagement du territoire, c'est essentiellement, ou la cohésion du territoire national, c'est aider le Sud.
Aller aider la Mezzogiorno, la fameuse Mezzogiorno.
Voilà. Et la chanson
d'Adriano. Ça n'a pas très bien marché, Xavier Desjardins va nous le dire.
Non, je disais la chanson de Celentano. Raconte cette nostalgie qui habite tous les Italiens du Sud, de l'enracinement et de la nécessité d'aller à la ville, enfin, d'aller en une città. Et de quitter le lieu qui est celui de nos racines. Et moi, c'était juste un clin d'œil parce que c'est grosso modo encore aujourd'hui, alors qu'on a fait tous les constats qui ont été faits par Magali Palandier, par Xavier Desjardins. En fait, cette vision-là continue d'imprégner encore en France les représentations, comme on le voit sur la discussion sur les conséquences du Covid, où les gens retourneraient à la campagne. Ce ne sont pas les mêmes gens qui retournent à la campagne. Ils retournent avec leur téléphone, avec leur service, avec leur formation reçue à la ville, avec leurs grands-parents qui sont retournés au bled et ainsi de suite. C'est un monde totalement différent, quand bien même la géographie de leur lieu d'habitation peut donner le sentiment d'un retour à la campagne. Ils ne rentrent pas à la campagne. Ils urbanisent les campagnes.
Gentrification. On va y revenir avec Magali Talandier. Auparavant, puisqu'on a parlé de l'Italie, on n'a pas trop le temps de faire des comparaisons européennes, mais vous l'avez fait excellemment, Xavier Desjardins. L'Italie, vous la considérez comme un échec, l'aménagement du territoire, quand même, ce qui s'y est passé, ces gros efforts en direction du Sud depuis tant d'années.
Si on juge par les écarts interrégionaux de PIB, par exemple, il est sûr qu'en France, sur le temps long, c'est la réduction des écarts, et qu'en Italie, les écarts sont aujourd'hui assez équivalents à celui au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Malgré des tentatives nombreuses d'aide, etc., malgré, en fait, depuis les années 80, quand même, les politiques européennes, politiques de cohésion européenne qui apportent des fonds pour les régions en retard de développement, l'écart reste le même entre le Nord et le Sud. Donc ça renvoie à des stratégies de développement qui étaient mal organisées, ça renvoie aussi à la question de la mafia, ça renvoie à tout un tas de questions discussion sur le fait qu'effectivement, c'est un pays qui a cette difficulté de très longue durée, depuis l'unité italienne en fait, hein, qu'il n'a pas réussi à résorber.
Si l'on compare avec, allez, prenons deux autres pays européens, Angleterre, Allemagne, évidemment des situations politiques extrêmement différentes.
Voilà, mais... qui sont différentes. Parce que l'Allemagne a le grand défi d'aménagement de l'Allemagne, c'est la réunification, bien sûr avec un rattrapage en cours, enfin, qui est quand même assez remarquable, avec une ville de Berlin qui a retrouvé des fonctions très mal en point à cause de la crise de la Covid, parce que beaucoup lié au tourisme, aux activités de culture, etc. Mais Berlin et aussi autour de la région de Leipzig, une réindustrialisation qui est aussi liée à la politique énergétique de l'Allemagne, qui ayant abandonné, développement beaucoup des énergies renouvelables, etc., a donné des nouveaux créneaux industriels. Aussi le fait que l'industrie ouest-allemande a créé des centres de recherche, des centres de production à l'est. Donc il y a un début de convergence, hein, qui est évidemment progressif, hein, mais qui est tout à fait intéressant à noter. Et l'autre grand pays qui a une difficulté, je dirais un peu le pendant au nord de l'Italie, c'est la Grande-Bretagne, où là c'est le divorce nord-sud, dans l'autre sens on pourrait dire, qui là effectivement aussi reste sur le temps long assez stable et un point aussi majeur de la construction du débat politique dans ce pays.
De la difficulté quand même de l'aménagement du territoire. Et revenons sur l'actualité qu'a évoqué Hugo Bévor avec vous, Magali Talentier. Cette population qui veut partir, qui commence à partir, il faut déjà qu'elle le puisse, financièrement.
Oui, deux choses à ce sujet, tout à fait. Vous avez raison, c'est-à-dire que quand on
va partir vers la campagne,
télétravail, quand on parle du télétravail, donc qui rendrait possible un habitant, en effet, non plus à proximité des centres urbains, mais peut-être dans des villes moyennes, pas forcément que des campagnes d'ailleurs. Hein, on se rend compte que finalement, au maximum 30 à 40% des actifs seraient en capacité de télétravailler de temps en temps, pas forcément tout le temps. Et quand on regarde évidemment quel est le profil de ces populations, on est sur des catégories socioprofessionnelles plus ou supérieures, donc des cadres, des décideurs, des professions intellectuelles. C'est aussi une forme qui accroît les inégalités finalement, parce qu'il y a ceux qui auront la possibilité, encore une fois, de peut-être quitter la ville, si c'est ça notre idéal commun, mais j'en doute, ou en tout cas qui auront la possibilité d'avoir des espaces plus grands pour justement télétravailler et choisir leur mode d'habiter. Et puis la population que l'on a quand même applaudi tous les soirs à 20h pendant quelques mois, qui elle finalement rend service et fait tourner les villes et qui n'a d'autre choix que de venir tous les jours travailler. Donc je trouve que là aussi les analyses qui sont menées forcément positives, etc., mais là les choses ont un peu changé sur justement ces questions-là, sont à nuancer. Et la deuxième chose dont on parle pas, enfin si, dont on commence à parler, c'est quand même que toutes ces prospectives que l'on mène en ce moment sans trop savoir où l'on va, oublie juste un détail, c'est que je pense que la crise économique et sociale va être assez terrible en réalité. Donc est-ce que face à une crise économique et des pertes d'emplois massives qui pour l'instant touchent les plus précaires, les actifs les plus précaires, est-ce que on va être en effet dans ces choix de vie à la campagne, cette possibilité de devenir propriétaire, ou est-ce qu'on va être au contraire contraint tout simplement par le marché de travail et d'aller là où les emplois seront, parce que ça va être difficile.
Xavier Desjardins.
Sur ceux qui font des longues distances pour aller travailler, parce qu'il y en a déjà beaucoup, ceux qui vont d'une aire urbaine à une autre, dans les années, tous les jours, enfin, pour aller travailler, il y en avait 1 million dans les années 80, il y en a presque 3 millions aujourd'hui. Donc il y a un accroissement considérable des gens qui font des trajets longs. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est tout type de métier et tout type de distance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font du ville à ville. Et je rejoins Magali Talandier. S'il y a un développement du télétravail, c'est des gens qui iront 2 ou 3 jours dans leur lieu d'emploi principal, leur entreprise, leur administration, etc. Et on aura, à mon avis, une explosion des mobilités, parce que ça permettra aux gens, en fait, de choisir d'une autre manière leur lieu de travail. Et il n'est pas sûr que les campagnes soient les principaux récipiendaires, je dirais, de ceux qui se mettent à télétravailler. Et pour le système de transport lui-même, rien ne dit que ça le soulage, parce qu'on peut avoir le choix de, bah, par exemple, de venir travailler 2 jours à Paris, une nuit à l'hôtel ou chez un ami, et d'habiter dans le sud-ouest de la France. Bon, ça va encombrer beaucoup le réseau ferroviaire ou le réseau routier. Donc, je trouve que là-dessus, on a l'illusion de l'exode urbain est un peu difficile à croire, surtout si on se dit que la crise de la Covid va accélérer des tendances en cours.
pas sûr non plus que sur le plan écologique, ce soit forcément une bonne chose.
C'est pas sûr du tout.
Pas sûr du tout. Hugo Beaufort, vous êtes livré à un exercice au CGET, vous étiez encore à l'horizon 2040. Alors évidemment, la crise de la Covid est peut-être en train de bousculer un peu les prévisions, mais vous allez aussi dans ce sens des campagnes attractives, mais pour quel ménage et une dynamique locale, mais avec des risques aussi pour les terres agricoles, on n'en a pas encore parlé, et puis l'augmentation des prix, le foncier.
Ça vaut la
peine. On n'est pas en train de dire à tout le monde qu'il faut rester dans les villes. Hein. Pas nous. Il ne faut pas se méprendre non plus. On essaie juste de...
Peut-être un point de...
De penser à tout.
Sur les méthodes de l'aménagement du territoire, parce qu'on a parlé des objectifs, on a parlé des structures qui ont cessé d'évoluer, sur les méthodes. Un des trucs très originaux qui caractérise l'aménagement du territoire à la française, c'est le recours aux exercices prospectifs. C'est-à-dire qu'on se construit des scénarios à 10, 20, 30, 40 ans. Et on se dit scénario du fil de l'eau, scénario selon qu'on fait ceci, selon qu'on fait cela, et ça a joué un rôle extrêmement décisif dans la prise de conscience des schémas tendanciels. Grosso modo, si on ne fait rien, voilà à quoi va ressembler la France. Mmh. Et donc ces scénarios étaient qualifiés selon les époques d'inacceptables, le scénario du fil de l'eau et ainsi de suite. Et l'idée, c'était de faire surgir, grâce à cette méthode de la prospective, du souhaitable et des politiques publiques capables d'agir pour inverser le cours des choses. Sur le caractère un peu inéluctable de la diffusion, de la déconcentration de la population au-delà des cœurs urbains, il n'y a pas de difficulté de constat. On voit que c'est ça qui est en train de se passer. En revanche, il y a deux autres constats qui viennent compléter et qui obligent à l'action. Le premier, c'est que les ruralités sont très inégales entre elles. Les territoires moins denses gagnent des habitants plus vite que les villes. Cependant, pas tous. Et en particulier, les territoires de montagne, enfin, un certain nombre de territoires post-industriel souffre considérablement. Donc la première chose, c'est est-ce qu'accepte-t-on que la France ait des parties désertifiées, alors que la France n'en a pas aujourd'hui, c'est une de ses singularités. Et deuxième question, c'est à quel coût écologique, à quel coût économique peut-on faire en sorte que ces territoires occupés par des personnes qui sortent des villes pour bénéficier d'espaces, de fonciers à moindre coût, pour leur faire bénéficier des services essentiels dont ils ont besoin, en particulier le téléphone portable, l'accès à la médecine. Donc ce sont ces questions-là qui ont été au cœur. Et si vous me permettez juste sur le Covid, je crois que le Covid a fonctionné comme un révélateur du dégoût de la ville chez un certain nombre de personnes, mais ce qui est saisissant, et ce qui est très saisissant singulièrement en Ile-de-France, c'est la dissociation entre l'aspiration des gens à y vivre et le fait que ce soit des espaces qui créent des emplois. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des mobilités vers des territoires sans emploi ou avec des taux de chômage élevés. La région qui gagne le plus d'habitants en termes de solde migratoire, c'est l'Occitanie qui se caractérise par des niveaux de chômage élevés. L'Île-de-France aujourd'hui est depuis 20 ans déficitaire alors qu'elle crée des emplois.
Beaucoup de réflexions, évidemment, que vous soulevez là. Et peut-être que vous parlez surtout des très grandes villes et moins des villes moyennes qui restent... Peut-être l'avenir, je ne sais pas. Alors là, on est en train de se rapprocher de la fin. Magali Talandier, les tout derniers mots, dites-nous ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit.
Si l'on accepte cette idée que l'on serait quand même en train d'aller vers un modèle plus écologique, qui tienne plus compte des questions environnementales, on pourrait quand même accepter l'idée qu'on va reconnecter nos espaces, c'est-à-dire que l'on va quand même essayer d'aligner des lieux de vie, des lieux de travail. Et dans ce cas, les villes moyennes ont des cartes à jouer. C'est-à-dire que là, on a parlé beaucoup de mobilité, de déconnexion entre j'habite de plus en plus loin de mon lieu de travail. Peut-être que un nouveau modèle qui émergerait serait quand même une reconnexion dans l'espace de nos différents lieux d'activité. Mais c'est vrai que la crise du Covid ne nous dit pas si cette tendance va être accélérée ou au contraire complètement freinée face aux pertes d'emplois et à l'injonction économique et sociale. Enfin là, on voit plutôt qu'on fait des pas en arrière sur les questions environnementales au nom de l'économie. Il faudra arriver à marcher sur ces deux pieds en même temps, quoi.
Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
Et pour finir notre émission sur l'aménagement du territoire, il me semble que notre petite séquence hebdomadaire est assez bien trouvée. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Hugo Beaufort, être né quelque part, venir de quelque part. Vous avez parlé des Parisiens notamment. Eh bien, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que c'est important pour vous? Je ne sais pas où vous êtes né. Est-ce que ça reste pour vous très prégnant dans votre histoire personnelle?
Je suis né à Toulouse. Je suis rené à Paris, après je suis rené en Italie, c'est pour ça que j'aime Madrid en Chinatown. Et oui, ça reste prégnant, mais avec l'idée que ça ne fixe pas mon identité, c'est juste autant d'étapes dans un parcours.
Magali Talandier, la même question.
Oui, il y a l'appartenance et l'appropriation, donc je me sens appartenir à des lieux, y compris celui de ma naissance, et puis il y a des lieux où je suis plus active dans ma forme d'appropriation de l'espace, et c'est peut-être celui où je vis, où je projette mon avenir, mais voilà, donc on est en effet attaché à de multiples lieux au cours de nos vies.
Est-ce que le couple ville-campagne, donc, vous conviendrait assez ?
C'est un peu un idéal, mais après, la mise en pratique de celui-ci, je crois, quand même, pose des contraintes aussi. Mais je comprends que ce soit un idéal de mode d'habiter, de concilier ville et campagne.
Enfin, Xavier Desjardins.
Eh ben moi, je suis né à Lisieux, dans le Calvados. C'est une petite ville. Et effectivement, oui, j'y suis attaché parce que c'est une ville qui a un certain charme. Mais j'y suis né parce que mes parents y ont été affectés comme professeurs et sans attache à cette région plus ancienne. Mais c'est important, en fait, voilà, j'y étais jusqu'au bac. Et c'est vrai que là, c'est la trajectoire des petites villes qui ont perdu beaucoup d'emplois industriels, qui ont perdu de la relation à Paris parce que la desserte ferroviaire se dégrade, etc. Ça marque son imaginaire.
Eh bien, merci encore à tous les trois. Magali Talandier, qui est en duplex à France Bleu Isère. Vous êtes à Grenoble. Hugo Bévor et Xavier Desjardins. Bien sûr, tous vos travaux seront disponibles sur notre site. Qu'est-ce que je cite ? L'aménagement du territoire, également planification urbaine. La ville en devenir pour vous, Xavier Desjardins. Repenser l'aménagement du territoire, vous l'avez cité tout à l'heure.
Voilà, lors d'un colloque de Cerisy en Normandie, donc pas très loin de Lisieux, qui a eu lieu l'an dernier. Colloque qui réunissait notamment Hugo Bévor et Magali Talandier et bien d'autres.
Eh bien, oui, on l'ignorait, on vous a réunis quand même. Récit beaucoup d'articles de Magali Talandier à la cité de Conversation, ce site tout à fait passionnant et libre d'accès. La revue Urbanisme aussi, où il est question de vos articles Résilience urbaine face à l'épidémie de Covid. Des papiers aussi sur l'économie résidentielle, dont on vient de parler. Résilience urbaine, je l'ai dit, l'exode urbain. Enfin voilà, autour de tous ces thèmes-là. Et bien sûr, les travaux du CGET, Hugo Bévor, on peut s'y reporter, même s'il continue sans vous.
Moi, une des singularités et une des richesses du site du CGET, c'est de donner accès à toutes les données. Et vous avez un site très riche qui est celui de l'Observatoire des territoires, qui est un outil de travail extraordinaire que tout le monde doit exploiter. Voilà.
Eh bien, on mettra tout cela sur notre site et un grand merci à notre équipe, Anne-Laure Chanel, en compagnie de Bernard Lagnel et Gérard Coste à Grenoble, que l'on remercie aussi, qui a reçu Magali Talandier, et notre équipe préparation, documentation, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Zora Vigné, notre stagiaire. Cette émission et toutes les précédentes d'ailleurs de nos géographies depuis que nous avons commencé cette émission début septembre sont à écouter et bien sûr à podcaster sur franceculture.fr et sur l'application Radio France où vous trouverez d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'autres belles choses. À jeudi prochain, le journal à suivre.